magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Pauline Leduc.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Au temps du coronavirus, des crises sanitaires et économiques les plus graves depuis plusieurs décennies, certains pays s'en tirent mieux que d'autres. Parmi ceux-ci, à quelques encablures de la Chine communiste, Taïwan. Taïwan, où la présidente Tsai Ing-wen, réélue au mois de janvier dernier, a entamé son deuxième mandat ce mercredi 20 mai dernier. Sous son autorité, ce pays de 24 millions d'habitants a su détecter à temps la menace du coronavirus et prendre les mesures qui s'imposaient, de sorte qu'aucun confinement n'a été nécessaire et que le nombre de victimes sur l'île est minime. Cela veut-il dire que l'économie taïwanaise ne rencontre aucune difficulté ? La pandémie amène-t-elle l'île à repenser son organisation industrielle et sa relation économique avec la Chine? Dans la guerre commerciale sino-américaine, comment s'est positionné Taïwan? Enfin, le capitalisme taïwanais est-il inégalitaire ou doit-il se protéger de la proximité de la Chine communiste et autoritaire en répartissant au mieux les fruits de la richesse collective? Voilà quelques-unes des questions que nous allons aborder au cours de cette émission avec les deux invités que je vous présente maintenant. Et d'abord vous, Denis Forman, bonjour.
Bonjour.
Denis Forman, vous nous parlez depuis Taipei, la capitale taïwanaise. Vous y vivez depuis plus de 30 ans. Vous êtes avocat, vous êtes le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-taïwanaise. Enfin, vous êtes conseiller du commerce extérieur et vous allez dialoguer au cours de cette émission avec Mathieu Duchâtel, qui se trouve à Paris. Bonjour Mathieu Duchâtel.
Bonjour.
Mathieu Duchâtel, vous êtes directeur du programme Asie de l'Institut Montaigne, un think tank parisien d'orientation libérale. Vous connaissez bien Taïwan pour y avoir passé plusieurs années dans les années 2010 au sein de l'Université nationale Shenzhi. Vous connaissez également l'autre côté du détroit de Taïwan pour avoir mené des recherches à l'Université Fudan de Shanghai. Enfin, un dernier mot, cette émission n'aurait pu se monter sans le concours de notre correspondant à Taipei, Adrien Simor, dont vous entendrez plusieurs reportages dans les minutes qui viennent. Denis Forman, je le disais dans la présentation de l'émission, vous vivez et travaillez à Taipei depuis plus de 30 ans. À quoi ressemblait l'économie taïwanaise quand vous vous êtes installé en 1988? Est-ce que c'était très différent de ce que vous connaissez aujourd'hui?
Oui, je pense que c'était différent dans la mesure où on avait une économie dont l'activité était concentrée sur le textile, sur ce qu'on appelait à l'époque peut-être l'article bon marché, ou relativement bon marché. Donc le Made in Taiwan, ce n'est plus le même. Le Made in Taiwan aujourd'hui, c'est de l'électronique. Les puces que vous avez dans votre téléphone portable sont vraisemblablement fabriquées par les leaders taïwanais, Taishinian, Taiwan Semiconductor, pour ne pas dire son nom, qui est le premier mondial. Elles sont fabriquées aussi par une société taïwanaise.
Alors, est-ce que ça a été un changement progressif ou est-ce qu'il y a une date qui marque un coup d'accélérateur dans cette mutation de l'économie taïwanaise?
Oui, je pense que c'était la fin des années 80, début des années 90, et ça a été un véritable succès. Le basculement vers l'électronique, et notamment qui a abouti à l'émergence de marques qui sont connues des consommateurs français, notamment Acer pour les ordinateurs, Asustech, alors que les leaders étaient encore à l'époque IBM, etc. Mais la transition a été très très bien faite, elle est venue d'en haut, il y a eu une impulsion d'organismes comme l'ITRI, et les Taïwanais travaillent dur, font de la recherche, sont très bons en industrialisation et ils ont une véritable base productive, plus encore à l'époque, avant les délocalisations en Chine. Donc on peut dire que le succès, ça a été aussi cette transition vers l'électronique et l'industrie de l'information.
Alors, Mathieu Duchâtel, la grande question qui va traverser toute cette émission, c'est bien sûr celle de la relation entre la Chine communiste et Taïwan. Alors, on va pas refaire ici toute l'histoire des relations politiques entre les deux rives depuis 1949 et la prise de pouvoir par les communistes chinois à Pékin, mais je pense qu'il est important... dans une émission où on parlait essentiellement économie, de dire quelques mots quand même problèmes de politique. Et où en sont les relations entre les deux rives du détroit de Taïwan?
Alors, les relations entre les deux rives aujourd'hui ne sont pas très bonnes. La présidente Tsai Ing-wen a été réélue sur un mandat de défense, finalement, du statu quo, même si elle est perçue comme étant pro-indépendance en raison de son appartenance politique, le Parti démocrate progressiste, qui a été le parti de la démocratisation de Taïwan et qui, dès sa fondation en 1986, inclut dans sa charte l'indépendance de Taïwan comme un objectif. Cela dit, l'indépendance de Taïwan a été maintenant gelée par le Parti démocrate progressiste. On a au pouvoir des gestionnaires qui sont parfaitement conscients du rapport de force avec la Chine et qui doivent trouver un équilibre entre, d'une part, la nécessité d'avoir pleine conscience des rapports de force et de la symétrie entre la Chine et Taïwan, et de l'autre, des aspirations, disons, identitaires de la population taïwanaise, dont les sondages montrent aujourd'hui qu'une majorité se conçoit comme étant d'identité nationale taïwanaise et non pas seulement d'identité nationale taïwanaise et chinoise ou d'identité nationale chinoise. Il y a eu un virage qui a été pris par la société taïwanaise au fil de la démocratisation et cette réalité-là est véritablement, du point de vue de Pékin, un problème extrêmement difficile à résoudre.
Alors, ce problème, il trouve aussi, d'une certaine manière, sa traduction sur le plan économique. Vous allez le constater maintenant. S'il y a un secteur de l'économie mondiale dans lequel Taïwan pèse d'un poids certain, primordial même, Denis Forman nous le disait en quelques mots tout à l'heure, c'est le secteur électronique. Écoutez ce reportage d'Éco d'ici, Éco d'ailleurs, signé Adrien Simor, le correspondant de RFI à Taïwan.
District de Tucheng, en lisière de Taipei, des dizaines de bâtiments, tous flanqués du logo rouge et bleu de Foxconn, une des entreprises taïwanaises les plus célèbres au monde. Foxconn est le principal fournisseur d'Apple et assemble notamment la majorité des iPhones vendus dans le monde. Sur le papier, son modèle est simple. Une marque comme Apple imagine un produit et demande à Foxconn de le fabriquer en masse et à bas prix. C'est sur ce même modèle que s'est construit une grande partie du secteur électronique taïwanais au service des plus grandes marques.
Taïwan est généralement caché, on ne les voit pas, ils sont à l'intérieur de nos appareils.
Pascal Viau, directeur de la société de conseil Ubic, spécialisée en coopération industrielle.
Donc au début, c'était de la sous-traitance essentiellement économique, donc chercher à réduire les coûts de production simplement. Et puis ils ont essayé de mettre de plus en plus de valeur ajoutée en fait par rapport à ça. Années 90, années 2000, donc massivement les Taïwanais ont investi en Chine pour mettre des usines, pour arriver à avoir des usines à la bonne échelle, grand volume, mais aussi pour réduire les coûts. Donc il n'y a pratiquement plus d'usines en fait à Taïwan qui fabriquent des laptops, des PC. Par contre, ce sont bien des entreprises taïwanaises qui ont des usines en Chine.
Foxconn emploie aujourd'hui plus d'un million de travailleurs en Chine pour un chiffre d'affaires proche de 25% du PIB taïwanais. Pour autant, toutes les usines n'ont pas quitté Taïwan. On trouve encore les usines hautement techniques de l'industrie des semi-conducteurs, mais aussi certaines lignes d'assemblage. Rendez-vous avec Michael, responsable de la chaîne de production chez Unabiz, une start-up franco-taïwanaise spécialisée dans les objets connectés. Comme Apple, l'entreprise de Michael fait fabriquer ses produits par des sous-traitants taïwanais, mais cette fois directement à Taïwan.
Là, on va à Hsinchu. C'est à 2 heures de route de la capitale Taipei. C'est un endroit très très important pour l'industrie électronique à Taïwan, où de nombreuses entreprises du secteur ont des bureaux ou des usines. Par exemple, pour les semi-conducteurs, les sièges sociaux de TSMC, tout comme leurs usines, sont à Hsinchu.
TSMC, c'est le premier producteur de semi-conducteurs au monde et c'est encore une entreprise taïwanaise.
Tout ce qui fonctionne avec de l'électricité a besoin de circuits intégrés. Et ces circuits intégrés viennent des semi-conducteurs. Donc sans l'industrie des semi-conducteurs, le monde moderne ne fonctionne pas. Et les Taïwanais détiennent plus de 50% de ce marché. Mate, l'usine que l'on va visiter, en fait, ils assemblent tous ces composants pour en faire un produit final.
Il y a environ 200 personnes qui travaillent ici.
Ray, PDG de MightyNet.
Chaque composant a une fonction différente. Ce qu'on fait, c'est qu'on place les composants au bon endroit pour en faire un circuit imprimé.
Alors Ray nous fait faire un petit tour de l'usine. Dans chaque salle, il y a des chaînes de montage plus ou moins automatisées selon le niveau d'avancement. Et comme souvent à Taïwan, ce sont des travailleurs originaires d'Asie du Sud-Est qui occupent les postes les moins qualifiés, comme Lysera qui vient des Philippines.
Je vérifie que chaque circuit imprimé ne soit pas rayé ou abîmé. Si c'est le cas, je dois le montrer à ma responsable.
Ici, c'est la dernière étape. Les produits sont emballés à la main le long d'un tapis roulant. En l'occurrence, ce sont des clés USB prêtes à partir en magasin. Ray, vous avez aussi des usines en Chine. Comment vous répartissez la production entre Taïwan et la Chine ?
Si vous voulez faire des prototypes rapidement ou des quantités inférieures à 1 million, généralement, on le fabrique à Taïwan. Mais dès que la commande dépasse 1 million d'unités, on réfléchit à faire produire par nos usines en Chine.
Donc vos usines en Chine sont plus grandes qu'ici ?
Oui, elles sont environ 5 fois plus grandes. Elles sont beaucoup plus adaptées au grand volume qu'ici.
Depuis 2 ans, ce modèle historique des fournisseurs taïwanais a été chamboulé par la guerre tarifaire entre la Chine et les États-Unis. Le conflit pousse les fabricants taïwanais à délocaliser une partie de leur production hors de Chine pour échapper aux sanctions américaines. Ray lui-même vient tout juste de lancer le chantier d'une nouvelle usine à Taïwan.
En fait, on avait déjà un terrain depuis 5 ou 6 ans, mais on ne savait pas quoi en faire. Juste après la guerre commerciale, le gouvernement taïwanais a voulu inciter les entreprises taïwanaises à revenir à Taïwan. Ils proposaient une bonne réduction sur les taxes. Donc c'est pour ça qu'on a pris cette décision de construire une nouvelle usine. De plus en plus de consommateurs réalisent des risques liés à la concentration de leur production en Chine. Donc ils essayent de déplacer certaines lignes de fabrication. Mais en réalité, les coûts de production restent plus élevés qu'en Chine. Par exemple, s'ils viennent à Taïwan, je dirais que les coûts de fabrication augmentent d'environ 30%.
Taïwan est donc approprié pour certaines lignes de production, mais difficile dans ce contexte de déplacer les villes-usines de Foxconn situées en Chine vers Taïwan. Depuis plusieurs années, les fournisseurs taïwanais ont donc aussi investi dans de nouvelles usines au Vietnam, en Indonésie ou encore au Mexique, avec comme même objectif de réduire progressivement leur dépendance à la Chine.
C'était un reportage d'Adrien Simor dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI où nous parlons de Taïwan. Alors j'ajoute pour faire suite à ce que nous disait Adrien Simor qu'on a appris il y a quelques heures que le géant taïwanais des puces électroniques TSMC allait investir 12 milliards de dollars dans une nouvelle usine aux États-Unis qui créera des milliers d'emplois. Denis Forman, quand on écoute ce reportage qui suscite beaucoup de questions et beaucoup qui est très intéressant, on a l'impression que Taïwan est d'une certaine manière une grande puissance économique. Est-ce que ce serait abusif que de le dire ou de le penser ?
Ça dépend ce que l'on met derrière ce terme. Grande puissance économique, oui, surtout dans le domaine qu'on a évoqué, que vous avez évoqué, et les reportages étaient excellents, l'électronique. En revanche, dans certains domaines, la construction navale, par exemple, China Shipbuilding, ou alors l'automobile, là, vous ne connaissez pas de marque taïwanaise, il n'y en a qu'une, il y en a deux, c'est deux sociétés sœurs, mais là, à la différence de la Corée, le pari n'a pas été réussi. Mais ils ont une économie forte dans les domaines évoqués, et ce qui fait aujourd'hui leur force, c'est les besoins du consommateur en télécommunications, les téléphones portables, les tablettes, les ordinateurs portables, etc. Et notamment en matière de confinement, j'ajoute, dans une situation de confinement, Taïwan, je regardais les données les plus récentes, Taïwan ces mois-ci réalise des chiffres tout à fait en augmentation dans certains domaines, notamment liés aux besoins de la communication des gens qui sont confinés.
Mathieu Duchâtel, est-ce qu'on peut dire que dans la globalisation, dans la mondialisation technologique, Taïwan est un rouage essentiel des chaînes de production ? Bien sûr.
Alors oui, bien sûr, on le voit sur tout ce qui est lié au secteur informatique, et les chiffres de mars du commerce extérieur taïwanais montrent une augmentation surprenante par rapport à mars 2019, qui est entièrement tirée par le secteur de l'électronique, alors même que d'autres secteurs sont plus dépendant d'une conjoncture à la baisse. Taïwan s'est positionné en particulier sur les semi-conducteurs, dont le marché va connaître une expansion très importante dans les prochaines années, avec l'avènement de la 5G. Et une entreprise comme TSMC, il faut bien voir que la fonderie de Tainan, qui est aujourd'hui construite par TSMC pour produire des semi-conducteurs de 5 nanomètres, qui sont les semi-conducteurs qui seront utilisés dans les smartphones haut de gamme 5G, elle a finalement un duopole avec Samsung. Donc sur un secteur aussi stratégique que cela, Taïwan se trouve dans une position extrêmement avantageuse et les poursuivants, sans compter Samsung, sont véritablement très loin derrière.
Mais à écouter le reportage que nous avons diffusé d'Adrien Simard, on a l'impression qu'il y a une espèce d'interdépendance entre la Chine communiste et Taïwan, c'est-à-dire que Taïwan ne pourrait pas avoir acquérir cette puissance s'il n'y avait pas une main-d'œuvre et des coûts de production bon marché en Chine continentale.
Bien sûr, parce que les entreprises taïwanaises, en particulier bien sûr dans le secteur des semi-conducteurs, ne sont pas le produit final. Les produits sont intégrés dans des produits finaux, ce qui n'est pas le cas pour Acer ou pour Asus. On voit bien qu'une entreprise comme TSMC est extrêmement dépendante des commandes d'Apple et de Huawei d'ailleurs. Huawei a dépassé Apple l'année dernière comme premier client de TSMC. Et c'est vrai bien sûr aussi pour Foxconn qui construit des produits qui sont conçus par d'autres, et qui est malgré tout dans une situation de dépendance qui peut être problématique. On le voit récemment sur les iPhones avec la décision d'Apple de choisir un concurrent de Chine continentale pour produire les fameux AirPods, les écouteurs des téléphones Apple contre Foxconn. Donc il y a une dépendance bien sûr du client final, ce qui est une vulnérabilité pour Taïwan. Mais cette vulnérabilité dans le secteur des semi-conducteurs et jusqu'ici correctement géré par l'avance technologique sans égale d'une entreprise comme TSMC.
Danny Forman, est-ce que cette question de la dépendance à la Chine préoccupe les dirigeants taïwanais ?
Je pense au premier plan, parce que si l'on dépend trop d'une autre économie, la politique se glisse toujours dans les interstices et on le voit avec le tourisme, par exemple. Un des arguments dans les campagnes électorales passées à Taïwan, vous allez penser que je passe du coq à l'âne, mais c'était de dire, oh, si on a une mauvaise relation avec la Chine, on va perdre une partie du tourisme chinois. Bon, le Covid-19 a en quelque sorte résolu le problème, parce que le tourisme chinois s'est effondré. Mais il y a toujours ce risque de dépendre trop d'une autre puissance économique, et d'une puissance économique qui est quand même gigantesque, qui est très très grande. Imaginons, parfois c'est une idée, alors c'est sans proportion, mais imaginons que de grandes usines sud-coréennes soient établies en Corée du Nord. Bon, c'est difficilement imaginable, mais si la Corée du Sud devenait très dépendante de la Corée du Nord, on imaginerait que ça aurait des conséquences politiques et pour la vie démocratique de ce pays.
Mathieu Duchâtel ?
Il y a une politique aujourd'hui de l'administration Tsai qui est de limiter cette dépendance à la Chine en saisissant l'opportunité d'un contexte changeant, donc la guerre commerciale sino-américaine et les tarifs. Et cette politique a été dans l'idée des dirigeants taïwanais depuis les années 90, depuis les grandes délocalisations de production industrielle taïwanaise en Chine continentale, mais elle n'a jamais fonctionné parce que la Chine était tout simplement trop compétitive. Là, on a pour la première fois un contexte favorable qui permet des retours de certaines entreprises taïwanaises.
De la relocalisation, en quelque sorte.
Exactement, on a un programme de relocalisation qui fonctionne et on a un contexte international où la dépendance envers la Chine pour les chaînes d'approvisionnement dans de nombreux secteurs, et en particulier celui qui intéresse le plus Taïwan, qui est les télécommunications et l'électronique, avec un très très fort appel des États-Unis pour diminuer cette dépendance à la production industrielle en Chine. Donc ce contexte est plutôt favorable et on voit les entreprises taïwanaises qui s'ajustent, alors en produisant en Vietnam, en Inde, à Taïwan, mais aussi, comme vous l'avez dit, bientôt aux États-Unis, en Arizona, pour une usine de semi-conducteurs, ce qui est un développement tout à fait nouveau.
Alors, dans le reportage d'Adrien Simard, j'y reviens encore, il est question de la guerre commerciale entre Pékin et Washington que vous avez évoquée là à l'instant, et des taxes imposées aux produits chinois. Est-ce que Taïwan tire les marrons du feu, Denis Forman ?
Alors, je vais vous donner un chiffre, parce que c'est un chiffre qu'il a fallu que je que j'aille chercher, en fait, cette politique d'attraction des entreprises taïwanaises qui avaient fortement investi et qui étaient très dépendantes de la Chine, se traduit dans les chiffres suivants. En 2019, 20 milliards de dollars US ont été approuvés en ce qui concerne ces retours d'entreprises taïwanaises qui avaient des usines en Chine, des centres de production en Chine, vers Taïwan. Ça ne veut pas dire qu'elles laissent tout en place en Chine, qu'elles abandonnent. Ça veut dire qu'elles réduisent et que leur développement se fait maintenant aussi à Taïwan. Et parce que là, je parlais d'un chiffre d'investissement théorique, c'est-à-dire de demandes faites par les entreprises pour bénéficier des mesures d'incitation du gouvernement taïwanais. Et à ce jour, donc sur les 20 milliards, 7 milliards ont déjà été mis en œuvre, avec un certain nombre de créations d'emplois, ce qui me semble être significatif. Et ça s'ajoute aux délocalisations dans les pays d'Asie du Sud-Est. Délocalisation d'usines, d'entreprises taïwanaises qui avaient fortement investi en Chine et qui se disent, attention, la nouvelle donne avec le gouvernement américain n'est pas très favorable au tout fabriqué en Chine. Donc, pour satisfaire les besoins de nos clients américains, il nous faut délocaliser. Par exemple, dans le domaine de la chaussure, Pucheng, qui est le premier fabricant mondial, qui est une société taïwanaise que peu de gens connaissent, mais qui fabrique pour les grands noms des fabricants ou des designers d'articles de sport, eh bien, renforce sa présence dans des pays, notamment comme le Vietnam. C'est logique.
À ce point de l'émission, me vient une question, Mathieu Duchâtel. Il est quand même curieux que deux pays, puisque pour nous Taïwan est un pays, qui sont aux antipodes économiquement et politiquement parlant, et réussissent à avoir des échanges commerciaux et économiques aussi importants et semble-t-il fluides. C'est porte ouverte pour les Taïwanais en Chine communiste ?
Alors oui, bien sûr, il y a eu une politique d'attraction des investisseurs taïwanais, des individus taïwanais. Il y a 2 millions de Taïwanais qui travaillent en Chine, qui ont des activités économiques en Chine. On a des échanges commerciaux qui dépassent les 200 milliards de dollars, si ma mémoire ne me trompe pas. Et on a une véritable fusion dans tout ce qui est l'électronique et les télécommunications. Et quand on observe les relations entre la Chine et Taïwan sous l'angle, disons, du secteur de la 5G, on s'aperçoit bien que finalement la politique est une nuisance très faible sur tout ça et que la dynamique économique est extrêmement forte. Il reste qu'il y a un facteur dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui mais qui est pourtant structurant au-delà des tarifs, c'est tout ce qui se passe aux États-Unis sur le plan des contrôles des exportations et des différents outils que les Américains utilisent pour prévenir en fait l'accès de la Chine à certaines technologies clés dans le perspective d'une compétition non plus purement économique, mais véritablement technologique. Et ça me ramène à la question des semi-conducteurs et en particulier à la question de l'entreprise Huawei, qui est très dépendante dans ses approvisionnements des entreprises taïwanaises, de TSMC et d'autres. Il y a, du point de vue des entreprises taïwanaises, une véritable incertitude sur l'avenir au moment où les États-Unis reconstruisent une boîte à outils de sanctions pour, en réalité, empêcher certaines entreprises de commercer avec Huawei et avec toute entreprise qui serait liée au milieu de la défense en Chine, et qui explique aussi que les entreprises taïwanaises doivent regarder leur dispositif international de manière un peu différente et ne peuvent plus s'appuyer uniquement sur la Chine comme elles le feraient si elles étaient dans une logique purement de business. Et là, je parle des télécommunications, de l'électronique, qui ne sont pas aujourd'hui des secteurs touchés par les tarifs supplémentaires américains.
Mais est-ce qu'il y a une volonté, je veux dire, du gouvernement chinois de forcer la fusion, en quelque sorte, entre les deux pays, entre les deux territoires, par l'attraction économique ?
Alors oui, c'est la politique de la Chine depuis la fin des années 80, véritablement, de réussir une intégration économique et humaine entre les deux rives du détroit.
On rappelle qu'il y a 180 kilomètres entre les deux territoires.
Hein. Exactement. Il y a une proximité humaine qui est extrêmement forte, mais cette politique n'a pas obtenu les résultats escomptés pour la Chine et les dernières élections le démontre. Je pense qu'il faut bien prendre la mesure de l'affaiblissement aujourd'hui de ce qui a été la thèse du parti en opposition aujourd'hui à Taïwan, le Kuomintang, qui était de vendre à la population taïwanaise l'idée que le futur de la croissance économique de Taïwan était dans une intégration plus étroite avec la Chine. C'est un discours qui a beaucoup convaincu en 2008, qui convainquait encore en 2012, mais qui aujourd'hui n'est plus convaincant. Et on a vu aux dernières élections de janvier le Kuomintang patiner un petit peu avec ce message, parce que l'environnement international a changé et que délocaliser en Chine, s'appuyer sur la croissance chinoise, n'est plus la seule perspective pour les acteurs économiques taïwanais qui peuvent se diversifier aujourd'hui.
Alors on parlait il y a quelques instants de la guerre commerciale, des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, des restrictions mises aux échanges par les Américains. Cette guerre commerciale, elle est un peu passée au second plan tant l'actualité en ce moment est occupée par la pandémie de Covid-19. Cela fait plus de 30 jours qu'on ne compte pas de nouveaux cas à Taïwan, mais cela ne met pas le pays à l'abri des impacts économiques de la pandémie de Covid pour autant. Un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Adrien Simor à Taïwan.
Chaque matin, les 200 salariés de cette entreprise taïwanaise du secteur touristique se rendent au bureau. Mais les clients, eux, sont absents. Taïwan ne connaît aucun confinement, mais cela s'est fait au prix d'une fermeture progressive des frontières, devenue totale en mars dernier. Le nombre de visiteurs étrangers s'est donc effondré. Yu Chung, en charge de la stratégie de crise de son entreprise.
Depuis le début de l'épidémie, on a perdu entre 90 et 100% de notre activité. Mais en même temps, on a plus de temps. Donc on essaye de faire des formations, de revoir nos méthodes de ressources humaines ou d'avancer sur la transformation digitale.
Et la réouverture des frontières n'est pas à l'ordre du jour. Taïwan veut à tout prix éviter une nouvelle vague de cas. Le gouvernement a donc lancé un vaste plan de soutien à ses entreprises et table désormais sur la consommation des Taïwanais. Dans le cabinet de la vice-ministre de l'économie, Mei Hua Wang, on se prépare à la distribution d'environ 300 millions d'euros de bons d'achat prévus pour relancer la demande.
Nous prévoyons toujours une croissance positive pour cette année. Si on compare avec de nombreux pays, et notamment les pays voisins, Taïwan s'en sort vraiment mieux. Et c'est surtout parce qu'on a réussi à contenir l'épidémie.
L'absence de confinement à Taïwan a aussi évité un arrêt des usines primordial à l'économie. Au plus fort de la crise en Chine, certaines ont même vu leurs commandes grimper. Roy Lee, vice-directeur à l'Institut de recherche en économie Chung-Hua.
Beaucoup d'entreprises taïwanaises reviennent à Taïwan en raison de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Donc elles avaient déjà pu remettre en place une chaîne d'approvisionnement à Taïwan. Au premier semestre, au moment de l'épidémie en Chine, elles ont donc pu récupérer certaines commandes des usines chinoises qui étaient à l'arrêt. C'est probablement la première raison pour laquelle Taïwan a pu maintenir une croissance positive pour le premier semestre, malgré la situation en Chine.
Problème, l'économie taïwanaise est avant tout exportatrice et dépend grandement de la demande extérieure. Les économistes ont donc déjà prévenu, le deuxième trimestre sera le plus douloureux pour les exportations taïwanaises.
Un reportage signé Adrien Simor dans Écho d'ici et Écho d'ailleurs sur RFI où nous parlons de Taïwan, vous l'aurez compris, avec deux invités. L'avocat Denis Forman qui est en direct de Taipei et le chercheur Mathieu Duchâtel qui est lui en direct de Paris, tout près des studios d'RFI, pas très loin en tout cas. Denis Forman, crise ou mini-crise économique, est-ce qu'on l'a subie ou est-ce que vous la constatez à Taipei? Est-ce qu'il y a un ralentissement malgré tout de l'économie? Parce qu'on nous dit le tourisme n'est plus là. La vice-ministre de l'économie disait dans ce reportage qu'il fallait distribuer des bons d'achat à hauteur de 300 millions de dollars. L'État, le gouvernement taïwanais est obligé de déployer des mesures d'aide budgétaire pour relancer l'économie ou la soutenir du moins?
Le soutien à l'économie, oui, certaines mesures, mais qui sont pour partie des mesures qui n'ont rien à voir avec ce qui va être nécessaire ou ce qui est déjà nécessaire dans d'autres pays. Il y a des secteurs qui ont souffert. Incontestablement, les Taïwanais aiment manger à l'extérieur, donc une réduction de l'activité dans ce domaine a été très forte. Les centres commerciaux sont moins achalandés. En revanche, un de nos collègues CCE nous disait récemment...
Donc, conseiller du commerce extérieur.
Voilà, oui, pardonnez-moi. Nous disait que si les gens se déplaçaient moins dans les centres commerciaux, ils allaient s'approvisionner en plus grande quantité en produits de première nécessité, si je puis dire. Donc, des performances telles que Carrefour, qui est une co-entreprise franco-taïwanaise ici, ou Artimart, qui est une co-entreprise, ou du moins une entreprise qui est la propriété d'Auchan, eh bien, semble indiquer que pour le moment on souffre inégalement dans certains secteurs de l'économie. Alors l'hôtellerie, effectivement, c'est un secteur qui a été aidé, il y a eu des bons d'achat, mais je dirais que le dispositif qui est mis en place aujourd'hui, c'est un dispositif d'aide sous forme de prêt. Il y a des bons d'achat, mais je pense pas que ce soit quantitativement très très important. D'autre part, si on se rapporte aux chiffres que j'ai, sur lesquels je fais des réserves, parce que c'est des chiffres officiels, mais moins de 10 000 personnes ont fait l'objet d'une mesure de chômage technique. Donc, à l'échelle d'un pays où la population active est de l'ordre de 12-13 millions d'habitants, ce n'est pas extrêmement significatif. Donc, c'est une économie qui est arrivée finalement à assez bien s'adapter à la crise. Et surtout, le fait que rapidement, ils ont pris des mesures de contrôle, les mesures qui ont rassuré la population, le traçage des personnes qui avaient voyagé en Chine à Wuhan, dans le Hubei. Et donc, ça a été un élément qui a rassuré, me semble-t-il, l'aspect psychologique important, la population, et le dossier n'a pas dérapé.
Mathieu Duchâtel, est-ce qu'en 2008, lors de la grande crise financière, Taïwan avait été très affecté par la situation ?
Alors, Taïwan a tiré son épingle du jeu en 2008 et de nouveau très bien ici. Moi, ce que je voudrais ajouter au propos de Denis Forman sur la gestion de la crise Covid par les Taïwanais, sur le plan économique, c'est que ça a mis en valeur deux spécificités assez fortes de Taïwan. La première, dont on parle très peu, qui est que finalement, Taïwan a complètement nationalisé son économie du masque. Pendant ces derniers mois, on a eu véritablement une mobilisation de l'outil industriel de Taïwan par l'État, en particulier des subventions, mais aussi des invitations à faire évoluer les chaînes de production, aussi bien pour les producteurs de masques que pour les producteurs de machines-outils qui produisent ces machines qui produisent des masques. On a eu même une mobilisation des réserves de l'armée taïwanaise pour aller travailler dans les usines de confection de masques. Et on est passé de 4 à 13 millions de masques par jour en un temps record, ce qui est un aspect très intéressant dans une économie comme Taïwan qui rappelle un petit peu les origines du modèle de Taïwan qui est un modèle d'État développementaliste. Et le deuxième aspect qui a été aussi soulevé par Denis Forman sur la très très forte numérisation de l'économie taïwanaise. Alors, la question des masques, je souligne aussi, puisque Taïwan est le pays qui a monté un système de distribution logistique qui s'appuie sur une application que chaque individu peut télécharger sur son téléphone portable en le liant à son numéro de sécurité sociale et qui participe à cette économie nationalisée du masque. Donc, on a eu un État qui est intervenu très fort dans l'économie pour préparer, en réalité, Taïwan a géré cette crise du Covid et évité ce que de nombreuses autres économies ont connu, qui ont affaibli, bien sûr, enfin, ont créé des récessions, qui est le confinement pendant plusieurs mois.
Denis Forman, est-ce que l'opinion publique taïwanaise est consciente d'avoir que le pays est regardé à l'étranger un peu comme un modèle aujourd'hui ?
Je pense, mais les Taïwanais sont des gens, je dirais, modestes de nature. Lorsqu'on a en face de soi la grande Chine, si je puis dire, on est circonspect. Mais je pense que c'est une réussite éclatante. Je pense qu'ils ont géré le dossier de façon très rationnelle. Le vice-président, d'ailleurs, est un épidémiologiste. Et dit-on, ce que j'ai pu lire, c'est que lorsque il a eu vent d'une infection ou d'un nouveau virus, donc atypique, générant des pneumonies en Chine, il a fait le lien avec le SARS, qui, en 2003, a été une cruelle expérience pour Taïwan, avec du personnel médical décédé, une désorganisation des hôpitaux. Donc, capitalisant sur cette expérience et réagissant vite, ils ont pris des mesures de contrôle, qui n'ont pas empêché les gens de vivre, mais au contraire, qui leur ont permis de vivre, en gérant les flux et en contrôlant l'origine des voyageurs, qu'ils soient taïwanais ou autres d'ailleurs. Donc les gens sont appelés, sont en quarantaine pendant 14 jours, s'ils ont vécu dans des zones sensibles, malheureusement ça inclut aujourd'hui l'Europe, et on les appelle deux fois par jour pour vérifier qu'ils sont bien là chez eux, et on leur dit que s'ils ont des symptômes, il faut qu'ils aillent à l'hôpital. Donc je crois que c'est ce qu'il a fallu faire pour arriver à un taux de réussite. On a 6 morts aujourd'hui à Taïwan. C'est quand on regarde les chiffres, lorsque je regarde les chiffres qui apparaissent sur les écrans de télévision internationaux, je suis très très étonné.
Très étonné, bien que vivant à Taïwan.
Parce que justement, on a une vie à peu près normale. En revanche, dans le métro, vous mettez votre masque, vous appliquez des solutions désinfectantes sur les mains, vous allez prendre un café, vous avez des espaces qui sont un peu plus distants entre deux personnes.
Mais est-ce que ça veut dire, Denis Forman, qu'il y a eu par le passé de gros investissements de l'État taïwanais dans le domaine de la santé ?
Alors, est-ce que vous... effectivement, on a un système. Alors, votre co-interviewé a très bien décrit la situation. Ils ont réagi vite sur le traitement de la pandémie, mais aussi très rapidement, ils se sont mis au travail pour faire une fabrication de masques locales. Et des millions de masques, d'ailleurs, ont été envoyés gratuitement en Europe. J'ouvre et je ferme la parenthèse. Et cet aspect fabrication de masques témoigne véritablement d'une initiative économique très, très concrète, très perceptible. Alors maintenant, sur le système de santé, je vais vous répéter ce que disent des dirigeants australiens. Ils considèrent que le système de santé avec l'assurance médicale universelle qui couvre toutes les personnes, employées, non employées, les bébés comme les personnes âgées, pour une somme assez modique, on a une assurance médicale universelle. Alors qui ne couvre pas les indemnités journalières, je ne vais pas vous faire un exposé technique, mais qui couvre, moyennant le paiement d'un ticket modérateur, l'ensemble des dépenses de santé avec des gens qui sont des très très bons professionnels. Vous arrivez dans un hôpital à Taïwan, non seulement la visite est rapide, mais en plus, vous avez votre approvisionnement de médicaments assuré dans les 15 minutes, une visite chez un médecin, fourniture de médicaments compris, avec le cas échéant même prise de sang, ça peut tout au plus être bouclé en l'espace, moi j'en ai fait l'expérience concrète, d'une heure et demie.
Mathieu Duchâtel, est-ce que ça passe, cette politique de sécurité sociale, d'assurance sociale, par de gros investissements dans le budget taïwanais ?
La santé publique taïwanaise représente une dépense importante pour le gouvernement et on a à Taïwan des débats qui sont familiers pour une audience française sur le coût total de la sécurité sociale. Mais le déficit reste bien moindre que dans le système français. Il faut voir qu'on a aussi à Taïwan, bien sûr, un système privé qui vient complémenter le système d'hôpital public, qui est aussi assez performant. Et dans l'ensemble, on a un système de santé publique qui inspire véritablement confiance à la population. Et je voudrais mettre en avant deux mesures qui me semblent ont été particulièrement efficace dans la gestion de la crise Covid à Taïwan. La première, ça a été la décision le 31 décembre, hein, c'est-à-dire extrêmement tôt, de manière quasi immédiate, d'envoyer des officiels de la santé, du ministère de la Santé taïwanais sur les vols en provenance de Wuhan en Chine pour détecter des symptômes Covid ou des fièvres chez les passagers. Ça a été fait immédiatement, ça veut dire que les autorités de santé publique taïwanaises sont parties du principe que le virus atypique de Wuhan était contagieux pour l'homme, ce qui n'a été accepté officiellement par la Chine et par l'OMS que le 23 janvier. Donc ça a été une mesure véritablement décisive.
Et la seconde ?
Et la deuxième mesure qui a été véritablement décisive pour Taïwan, c'est celle de la quarantaine individuelle. La quarantaine individuelle comme alternative au confinement, et c'est-à-dire une mesure de démocratie véritablement sévère, puisqu'on parle quand même d'une privation de liberté pendant 14 jours, mais qui est parfaitement acceptée par la société, alors même que c'est une mesure qui, dans de nombreux pays, y compris en France, alors qu'elle est débattue aujourd'hui, est prise sous un angle vraiment de violation grave des libertés individuelles.
Denis Forman, nous en parlait, Cette affaire de Covid-19 nous donne l'image d'un Taïwan très solidaire, très bien géré. Il y a pourtant des gens qui ont des difficultés à s'insérer dans la vie économique taïwanaise. Ce sont les jeunes qui sont particulièrement victimes du chômage à Taipei, la capitale, une ville de 7 millions d'habitants, où les transports en commun sont irréprochables, les commerces ouverts à toute heure et la montagne à proximité. Donc une image un peu idyllique. Seulement, le rapport entre les salaires et le prix de l'immobilier est parmi les plus élevés au monde. Le prix d'un logement moyen correspond à environ 15 années de salaire moyen. En conséquence, une majorité de jeunes continuent à habiter chez ses parents jusqu'à un âge avancé. Et les autorités, là, pour le coup, peinent à endiguer le phénomène. Écoutez ce reportage Éco-d'ici, Éco-d'ailleurs, signé Adrien Simor, que vous aviez déjà pu entendre dans une précédente émission du mois de février dernier.
District de Sanchong, en bordure de Taipei, un des quartiers les plus densément peuplés au monde. Rendez-vous au pied de l'immeuble de Chris. Ce jeune Taïwanais de 27 ans travaille pour un site d'information en ligne. Son revenu est supérieur au salaire minimum taïwanais, qui est d'environ 700 euros par mois. Et pourtant, il habite toujours chez son oncle et sa tante.
Notre appartement commence au troisième étage. Avant d'arriver, il faut d'abord monter un très long escalier. C'est assez vieux, il y a des trous dans les murs et donc il y a beaucoup de rats.
Pour rentabiliser l'espace, sa tante a installé un atelier de couture à l'étage. Chaque jour, quatre employés s'activent derrière les machines à coudre. Les vêtements sont ensuite vendus sur les marchés. C'est là que se trouve la chambre de Chris.
Oui, c'est ma chambre. Elle n'est pas très grande, mais c'est à peu près la taille du logement que tu peux louer à Taipei si tu viens juste d'être diplômé, que tu as ton premier travail et que tu ne gagnes pas beaucoup d'argent. Il y a tout juste la place pour mettre un lit, une petite table, mais dans ce cas, tu n'as pas de cuisine et parfois pas de toilette à l'intérieur.
Partager un toit avec sa famille n'est pas sans inconvénient. Sur son téléphone portable, Chris a enregistré le bruit des machines à coudre qui s'activent tôt le matin. Mais le petit loyer qu'il verse à sa tante est négligeable par rapport au prix du marché taïwanais.
J'ai choisi de vivre avec ma famille parce que je veux mettre de l'argent de côté. Les gens pensent toujours que vivre à Tokyo, à New York, peut-être à Paris est très cher. Mais si on compare au niveau des salaires, c'est en fait beaucoup plus abordable qu'à Taipei. Ici, je peux dépenser de l'argent pour ce dont j'ai vraiment besoin et mettre de côté. Comme ça, je pourrais un jour acheter une voiture ou peut-être même un logement à Taipei.
Selon un sondage du média Business Today, la moitié des Taïwanais âgés de 25 à 40 ans vivent encore avec leurs parents. Depuis les années 2000, l'écart entre les salaires et les prix de l'immobilier a presque triplé à Taipei. La faute à une fiscalité trop faible qui favorise les placements immobiliers et donc la spéculation. C'est en tout cas l'avis d'Alan Chan, chercheur au sein du collectif Hours. Dans les locaux de son association, Alan déroule une petite nappe de pique-nique. C'est la taille d'une ping, l'unité de mesure utilisée à Taïwan.
Dans les quartiers les plus chers, cette superficie coûte 2,5 millions de dollars taïwanais, ce qui fait presque 23 000 euros le mètre carré. La première raison, c'est la fiscalité. La taxe sur la propriété est très basse et les taxes sur les transactions, c'est-à-dire sur la spéculation, sont aussi très faibles. Donc les gens vont investir beaucoup d'argent dans l'immobilier et les prix augmentent constamment.
Cette fiscalité avantageuse et des taux d'intérêt défiant toute concurrence ont permis à 85% des Taïwanais de devenir propriétaires. Une proportion aujourd'hui parmi les plus élevées au monde.
J'ai une métaphore, c'est celle du jeu de Monopoly. Je pense que la génération précédente, ce sont les premiers arrivants. Et les premiers arrivants, ils achètent tout. Et dans cette situation, il n'y a aucune chance pour les nouveaux arrivants, c'est-à-dire la nouvelle génération. Alors les jeunes vont laisser tomber et habiter avec leurs parents pendant longtemps, jusqu'à leurs 30 ans ou 40 ans, parfois même plus. Et cela veut dire que tu ne peux pas avoir de famille et pas d'enfants, bien sûr.
Le gouvernement progressiste élu en 2016 a adopté une politique de l'offre. La rénovation urbaine ou la construction de logements sociaux sont notamment encouragés. Mais hors de question de s'attaquer aux règles du jeu et notamment à la fiscalité. 80% de propriétaires, c'est aussi 80% d'électeurs inquiets de voir leurs biens perdre de sa valeur. Dans son canapé confortable du ministère de l'Intérieur, le ministre adjoint Ching Chung Hua le reconnaît à demi-mot.
Certaines ONG voudraient que le gouvernement fasse quelque chose pour réduire les prix de l'immobilier très rapidement, mais ce n'est pas bon pour l'économie. Nous voulons que le marché soit stable. Un marché stable, c'est le mieux pour le secteur privé, pour les propriétaires et pour l'économie taïwanaise. Donc il faut y aller progressivement, et peut-être que dans 10 ans, Taipei sera une ville agréable à vivre.
lovely city you can live.
En attendant, la frustration monte. Le logement est une des préoccupations majeures de la jeunesse taïwanaise. Sur le palier de sa petite chambre, Chris s'estime chanceux de pouvoir économiser. Ce n'est pas le cas pour tous les jeunes taïwanais.
In the end, I will still...
Au final, j'achèterai quand même un logement si je dois vraiment habiter à Taipei pour le reste de ma vie. Mais il y aura de plus en plus de gens qui iront vivre dans les villes, donc on doit faire comprendre aux autorités qu'elles doivent changer cette situation et permettre à tout le monde de vivre en ville. Le logement, c'est fait pour vivre, pas pour faire de l'argent ou pour faire un investissement.
Un reportage signé Adrien Simor. Mathieu Duchâtel, est-ce qu'il y a un conflit économique générationnel à Taïwan entre les gens d'âge mûr qui ont participé à la construction du pays et puis les nouvelles générations, les jeunes ?
Alors, il y a un véritable problème à Taïwan de stagnation des salaires à l'entrée sur le marché du travail. Et quand on compare la décennie 90 avec la décennie 2000, ce qui apparaît de manière très évidente, c'est que dans cette première décennie des années 90, les gains de productivité horaire ont été véritablement répercutés sur les salaires. On a une augmentation de plus de 60% des gains de productivité horaire et une augmentation de plus de 50% des salaires pendant cette période. Sur la décennie suivante, on a une augmentation encore plus importante de la productivité horaire à 70%, mais seulement une augmentation des salaires de 16%. Ça veut dire que finalement les gains de productivité génèrent des profits qui ne sont pas répercutés sur les salaires, ce qui provoque véritablement le phénomène qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire la très grande difficulté pour des jeunes qui entrent sur le marché du travail d'obtenir leur indépendance immédiate et donc de rester très dépendants de leur famille.
Denis Forman, est-ce que la présidente Tsai Ing-wen prévoit de s'attaquer à ce problème dans son second mandat ? Est-ce que ça fait partie de son programme ?
Alors, premièrement, et je ne suis pas donneur de leçons, mais puisque vous entamiez l'exposé en évoquant le chômage n'est pas réellement un problème, je dirais, à Taïwan. Les salaires sont assez bas, surtout pour les nouveaux entrants, mais on est toujours à moins de 4% en dépit de la crise du coronavirus. Premier point. Second point, et ce n'était pas mentionné, peut-être que les interviews faisaient référence à une période ancienne, par le passé, lorsqu'une transaction immobilière avait lieu, il y avait la partie du prix du bien immobilier afférente au sol qui faisait l'objet d'une fiscalité sur la base, non pas du prix du marché, du sol, mais d'un prix estimé par l'État. Et donc, effectivement, les gens achetaient et revendaient des biens immobiliers dont une partie n'était pas fiscalisée, ou était très peu fiscalisée, ce qui a encouragé l'inflation immobilière et la spéculation. C'est terminé. Là, une nouvelle loi a été adoptée. Maintenant, on paye l'impôt sur la plus-value dégressif, un petit peu comme en France, au fur et à mesure que le temps passe. Voilà. Ceci étant dit, il est évident, et c'est une question récurrente, lorsque je suis arrivé à Taïwan, on avait le problème, il y avait un mouvement que connaît peut-être M. Duchâtel, qui est les escargots sans coquilles. Donc les gens qui se plaignaient de la difficulté d'accès au marché immobilier. Mais il me semble, et c'est pas pour cela que la situation est mirifique, que la situation est comparable à celle de Paris. Il me semble, d'après mes calculs, le prix au mètre carré, ou au ping, c'est 3 et quelques mètres carrés, peu importe, à Taïwan est comparable à celui de Paris. Et ces produits ou ce produit à Taïwan, en quelque sorte, le même problème qui s'est produit pour la métropole parisienne, où effectivement les jeunes ont de plus en plus de difficultés, voire même font face à une impossibilité de se loger dans le centre-ville.
Merci Denis Forman. Nous arrivons au terme de cette émission. Nous retenons que les jeunes ont du mal à se loger, que leurs revenus sont insuffisants. C'est un phénomène mondial, international, mais qu'en même temps, Taïwan est une force absolue dans un secteur clé de l'économie mondiale, qui est le secteur de l'électronique. Merci à vous deux, Denis Forman et Mathieu Duchâtel, d'avoir accepté l'invitation de RFI. Vous pouvez nous réécouter via l'application Pure Radio de votre smartphone, qui, vous l'aurez compris, contient certainement des éléments fabriqués à Taïwan ou par l'industrie taïwanaise. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.